Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 28 juin. Covid-19, assouplissement des mesures de distanciation sociale. Déplacement de Moon Jae-in au JO de Tokyo, 6 sondés sur 10 sont contre. Présidentielle 2022, la majorité et l'opposition se lancent dans la course à la primaire. La Corée du Sud participe à l'entraînement militaire conjoint États-Unis-Australie. Depuis plusieurs mois, les restaurants, cafés ou salles de gym situés à Séoul et dans ses environs ne peuvent accueillir des clients que jusqu'à 22 heures. Or, à partir du 1er juillet, leurs portes resteront ouvertes jusqu'à minuit dans ces régions placées au niveau 2 du nouveau barème de distanciation sociale. Les cinémas, les salles de lecture et les cybercafés ne seront quant à eux soumis à aucune contrainte horaire et les établissements de divertissement pour adultes complètement fermés en raison des mesures sanitaires rouvriront jusqu'à minuit. Dans la région métropolitaine, l'interdiction des rassemblements de 5 personnes et plus sera levée et la jauge passera ainsi de 4 à 6 durant une période de transition de 2 semaines. Dès le 15 juillet, elle sera portée à 8. Le nombre de participants autorisés dans les manifestations sera limité à 50 individus, mais il évoluera progressivement pour atteindre les 100. Face à cet assouplissement, certaines voix inquiètes se font entendre. Pour y répondre, durant la période de tampon, le contrôle des lieux à haut risque sera renforcé pour la mise en application de ces nouvelles restrictions. C'est ce qu'a souligné hier le Premier ministre Kim Boo-geum, qui préside le centre de gestion d'urgence. Les autres régions du pays seront, elles, placées au niveau 1, soit le plus bas niveau du nouveau cadre de distanciation sociale, et leurs commerces ne seront donc soumis à aucune contrainte horaire. Quant aux réunions privées, 8 personnes seront désormais autorisées contre 4 actuellement. À l'instar de la métropole, une période de transition de 2 semaines à 6 individus sera appliquée sur tout le territoire, à l'exception de la province de Chungcheong du Sud. Pour les rassemblements des membres de famille en ligne directe, aucune jauge ne sera imposée au niveau 1 et 2. Qui plus est, les personnes qui ont reçu 2 doses d'un vaccin anti-Covid n'entreront pas dans le calcul. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi, la réservation pour la vaccination contre le Covid-19 sera relancée pour les jeunes de 20 à 29 ans qui exercent des métiers dits essentiels. Pour être plus précis, il s'agit de quelque 110 000 individus dont le nom avait été omis des listes précédentes pour diverses raisons. Nés à partir du 1er janvier 1992, ce sont des policiers, des gardes-côtes, des aides-soignants ou encore des enseignants auprès d'enfants âgés de moins de 10 ans. La réservation pour cette tranche d'âge, dont le nombre se chiffre au total à près de 200 000 personnes, avait été lancée du 7 au 10 juin, mais près de la moitié ne figurait pas sur les listes. Plus de 6 Sud-Coréens sur 10 désapprouvent un éventuel déplacement au Japon de leur président de la République à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est le résultat d'un sondage réalisé le 25 juin par Realmeter auprès de 500 adultes. 60,2% des sondés sont contre le voyage de Moon Jae-in dans l'archipel, contre 33,2% qui sont pour. Les quadragénaires ont constitué le groupe le plus opposé avec 71,5% de réponses négatives. Sur le plan géographique, la région du sud-est qui englobe les villes de Busan, d'Ulsan ainsi que la province de Gyeongsang du sud était la plus réfractaire avec 67% de contre, suivie par la ville d'Incheon et la province de Gyeonggi avec 61,1%. Les résultats se sont avérés sans lien avec la sensibilité idéologique des répondants ni le parti politique que ces derniers soutiennent. Mais chez les sondés sans étiquette politique, les avis défavorables à ce voyage se sont établis à seulement 41,6%, tandis que 35,3% l'ont approuvé. Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95%, avec une marge d'erreur de plus ou moins 4,4 points. En mars 1937, l'ancienne Cour suprême du Japon a déclaré coupable 10 civils qui ont forcé 15 femmes à se prostituer auprès de la marine nippone à Shanghai, en Chine. Les accusés leur avaient menti en prétendant qu'elles pourraient travailler comme serveuses de restaurant. Ce jugement étaye la déclaration de Yohei Kono de 1993, dans lequel l'ancien secrétaire général du cabinet japonais a reconnu le fait que la mobilisation des femmes de réconfort avait été effectuée contre leur gré. D'ailleurs, ce document a été remis le 31 mars dernier au cabinet qui recueille depuis 1991 des données officielles liées à l'esclavage sexuel perpétré par l'armée impériale nippone pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ce jour-là, le secrétaire général du cabinet, Katsunobu Kato, a renié le fait que les autorités publiques ou l'armée ont mobilisé de force Seiyanbu, en indiquant qu'aucune information ne le prouvait. Un mois plus tard, le gouvernement nippon a décidé de ne plus employer le terme de femme de réconfort au service de l'armée. Conscient du fait que celui-ci laisserait entendre un enrôlement contraint, il a même incité à réviser les manuels scolaires en la matière. Un responsable de l'association civique japonaise chargée de faire la lumière sur cette tragédie n'a pas mâché ses mots en qualifiant le fait d'emmener des gens par tromperie d'un enlèvement flagrant. Toutefois, l'actuelle administration Yoshihide Suga prétend succéder à la déclaration de Kono, probablement dans l'intention de souligner que l'archipel a déjà présenté des excuses à ce sujet.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Le président de la Cour des comptes, Choi Jae-hyung, a donné sa démission ce matin. Il est considéré comme l'un des candidats potentiels de l'opposition dans la course à la présidentielle de mars 2022. Devant les journalistes, Choi a précisé qu'il avait fait état de son intention de quitter ses fonctions au président Moon Jae-in, jugeant inapproprié de continuer à servir sur fond de controverses qui l'entourent. Dans la foulée, il a présenté ses excuses au chef de l'État et aux citoyens. Il n'a pas toutefois précisé quand il rejoindra l'échiquier politique. De leur côté, l'ex-procureur général Yoon Song-yeol annoncera demain sa candidature, alors que Hong Jun-pyo, qui a déjà représenté le camp conservateur lors d'un précédent scrutin, fera de même. Le même jour, Hong a rejoint les rangs du Parti du pouvoir du peuple, le PPP, le principal parti d'opposition. Du côté de la majorité, le Minju est à pied d'œuvre dans la préparation de sa primaire, prévue deux mois avant celle du PPP. L'enregistrement des candidats débute aujourd'hui pour une sélection préliminaire de 6 d'entre eux le 11 juillet. Les deux favoris sont Lee Jae-myung et Lee Nak-yeon. Le premier, actuel gouverneur de la province de Gyeonggi, envisage d'annoncer sa candidature mercredi, tandis que le second, ancien chef du parti au pouvoir et ex-premier ministre, lui emboîterait le pas le 5 juillet en ligne. Séoul participera à Talisman Cyber, un exercice naval conjoint d'envergure entre Washington et Canberra, prévu mi-juillet dans les eaux territoriales australiennes. Sa marine y enverra un destroyer de 4400 tonnes afin d'améliorer ses capacités à mener des opérations combinées. Selon l'armée sud-coréenne, c'est la première fois que la Corée du Sud rejoint cet entraînement combiné, dont l'objectif ne réside pas dans l'affrontement d'un pays spécifique. Inauguré en 2005, cette manœuvre biennale accueillera également le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Des experts militaires estiment que cet événement vise à contrer la menace militaire chinoise croissante en Asie-Pacifique. L'Australie est en plein conflit commercial avec l'Empire du Milieu après avoir préconisé une enquête internationale sur l'origine de la propagation du coronavirus. Un drone destiné à surveiller les incendies de montagne a été développé par l'opérateur de téléphonie mobile LG U+, en collaboration avec une start-up. Se déplaçant selon un trajet programmé à l'avance, il détecte des flammes et des fumées par tranches de superficie de 2000 mètres carrés. Cet engin est capable de repérer un danger en seulement 2 secondes grâce à l'intelligence artificielle. Celle-ci identifie le feu à l'aide d'une caméra de détection des couleurs, puis confirme en mesurant la température avec une caméra thermique avant de tirer la sonnette d'alarme. Afin de reconnaître une image de feu à une altitude de 150 mètres, l'algorithme a été entraîné sur 560 000 données ces 12 derniers mois. Si on enregistre la latitude, la longitude et le temps voulu, l'appareil peut effectuer des patrouilles sans intervention humaine. D'après la société LG U+, l'IA a analysé principalement les données sur l'incendie dans les réserves naturelles, mais il est possible, en adaptant le scénario, d'élargir son usage à la sécurité publique ainsi qu'aux sites de construction. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.